Magazine des élections, le journal des électeurs. Tous les vendredis, dès 10h05 à 11h. Rediffusion, samedi de 11h05 à 12h sur Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine électoral. Nous sommes heureux de vous retrouver pour vous servir dans cette émission magazine électoral. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous avez suivi d'ailleurs qu'il y a eu report. Eh bien, on va en parler aujourd'hui et comment se fera l'élection des sénateurs et gouverneurs. Eh bien, nous aurons tous les détails dans ce magazine aujourd'hui avec Monsieur Joseph Sénateur. Il est directeur des opérations à la CENI. Monsieur Joseph Senda, bonjour.
Bonjour, monsieur Ledi.
Bienvenue dans ce magazine électoral. Vous avez des questions et des préoccupations. Appelez déjà au 081 890 63 94. Vous pouvez également poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission. Okapi Service, bienvenue à tous dans ce magazine électoral, coordonné et réalisé par Marcel Ngombo Mbala Keba, Jody Daniel au micro, Polydor Bansunga à la mise en onde. Excellente condition d'écoute du magazine électoral.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyenneté ». Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Bienvenue encore une fois dans ce magazine électoral qui s'intéresse aujourd'hui à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous savez, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a prolongé de 5 jours la date des dépôts des candidatures des sénateurs et gouverneurs des provinces. L'annonce a été faite dernièrement par Monsieur Jean-Pierre Calambar, rapporteur de la CENI. La conséquence de ces reports est que l'élection des sénateurs aura lieu le 14 mars et celle des gouverneurs le 26 mars 2019. Quelles sont les raisons qui justifient ces reports? Comment se fera l'élection des sénateurs et gouverneurs? Eh bien, avant de donner la parole à notre invité, je vous propose de suivre l'annonce qui a été faite par Monsieur Jean-Pierre Calamba.
La CENI a jugé bon de prolonger le dépôt de 5 jours, de telle façon que le lundi 4 février soit la dernière date de dépôt de candidature qui suit les 5 jours légaux de retrait, d'ajout ou de substitution, ainsi de suite jusqu'à la publication des listes provisoires, s'ouvre la période de contentieux auprès des cours d'appel et auprès de la Cour constitutionnelle pour ce qui est des sénateurs et des cours d'appel pour ce qui est des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et les conséquences que nous tirons de cette prolongation de 5 jours font que ça sera le 14 mars que l'élection des sénateurs aura lieu et le même jour on publie les résultats et l'élection des gouverneurs qui a lui des contraintes de au moins 21 jours dès l'installation des bureaux ça devrait avoir lieu le 26 mars 2019.
Voilà, c'était là Monsieur Jean-Pierre Calambar, rapporteur de la CENI. Monsieur Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qui justifie ces reports des élections des sénateurs et gouverneurs?
Merci pour la question.
De la date des dépôts des candidatures, je voulais dire.
Je crois que la CENI a voulu donner beaucoup plus de chances au plus grand nombre de compatriotes qui voudront bien servir le pays, les uns comme gouverneurs, les autres comme sénateurs. Mmh. C'est en fait pour donner beaucoup plus de temps, parce que on a constaté que, quoique beaucoup de compatriotes aient retiré les formulaires, peu sont venus les déposer pour confirmer leur candidature. Donc il fallait leur accorder un peu plus de temps, d'autant plus que parmi les candidats, il y en a qui sont à Kinshasa, qui voudront être candidats sénateurs dans leur province. Mmh. Et étant donné les difficultés que nous avons, du point de vue de la transmission des informations ou des données, on a parfois des difficultés. C'est comme ça que la CENI a jugé bon de prolonger pour que le plus grand nombre soit en mesure de postuler, les uns comme gouverneurs, les autres comme sénateurs. Mmh. Voilà pourquoi on a bougé un peu de plus ou moins 5 jours.
D'accord. Alors, une autre question. Donc, cela a aussi une incidence sur la date des élections, comme on l'a suivi tout à l'heure.
Oui, comme le rapporteur vient de le dire, mmh. tout a bougé dans le temps et aux dates indiquées par le communiqué de son excellence, monsieur le rapporteur.
D'accord. Alors, on voudrait un peu savoir qui est sénateur, qui est gouverneur. On parle des sénateurs, on parle des gouverneurs. Dites-nous, qui sont-ils?
En fait, la loi ne définit pas comme tel. Voilà, le gouverneur, c'est tel, le sénateur, c'est tel. Mais seulement, nous savons très bien que le gouverneur, c'est l'autorité première, l'autorité politico-administrative première d'une entité politico-administrative qu'on appelle province. Tandis que les sénateurs, selon l'esprit du législateur, il a voulu que chaque province soit représentée au niveau national. C'est comme ça que nous avons 2 chambres. La première chambre, la chambre haute, le Sénat, où siègent les représentants des provinces. Et sans anticiper, chaque province a droit à 4 sénateurs, Kinshasa a droit à 8, ce qui fait un total de 108. Maintenant que nous avons un ancien président qui est d'office sénateur, ça veut donc dire qu'on aura plus de 108 sénateurs. Tandis que les gouverneurs, eux, ils sont, disons, entre guillemets, les présidents des provinces. Autrement dit, un gouverneur est à la province, c'est qu'un président de la République est au pays. Mmh. C'est dans ces proportions-là. Donc nous avons les gouverneurs qui gèrent les provinces, que l'on peut considérer comme des petits états, des petits pays. Et nous avons des sénateurs qui représentent ces provinces-là au niveau national et qui constituent la chambre haute que nous appelons le Sénat. La chambre haute, les sénateurs, la chambre basse, les députés, oui. Les deux faisant le Parlement.
Bien. Alors dites-nous, quelles sont les conditions à remplir pour être candidat sénateur et quelles sont les conditions également pour être candidat gouverneur?
En fait, la loi définit les conditions. Je crois que pour ceux qui s'intéressent à la chose, là je voudrais beaucoup plus parler de gouverneur parce qu'en fait c'est ça que j'avais le plus en tête. Mmh. C'est que lorsque vous prenez la constitution du pays, vous avez 2 articles, 195 et 198, qui parle des gouverneurs en termes d'institutions provinciales. L'article 195 précise que la province dispose de 2 institutions, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. L'article 198 parle du gouvernement du point de vue de sa composition, du point de vue du mandat, du nombre de ministères et même du fonctionnement. Tandis que la loi électorale, elle va plus en profondeur en ce qui concerne notamment les conditions. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme condition? C'est qu'au départ, il faut d'abord être de nationalité congolaise. Pour ce qui est de gouverneur de province, il faut disposer d'au moins 18 ans à la clôture du dépôt de candidature. Il faut jouir de la plénitude des droits civiques. Il faut disposer d'au moins 1 graduat, sinon alors faire preuve d'une certaine expérience. À ce moment-là, on peut bien postuler pour devenir gouverneur. Les conditions sont pratiquement les mêmes, à la différence que, bien sûr, il faut être électeur. C'est-à-dire qu'il faut disposer de sa carte d'électeur. La différence est que chez les sénateurs, il faut au minimum 30 ans. Alors que chez les gouverneurs, il faut 18. Chez les sénateurs, il faut au minimum 30 ans. Ça, ce sont les dispositions de la loi qui définissent les critères et les conditions d'éligibilité pour les uns comme gouverneurs, les autres comme sénateurs.
Alors aujourd'hui, focalisons-nous un peu sur les candidats gouverneurs des provinces.
Merci bien.
Quelles sont les pièces que tout candidat au gouvernorat des provinces doit présenter, doit avoir dans son dossier?
Bon, il faut d'abord qu'il dépose une photocopie de sa carte d'électeur pour que nous nous rassurions qu'il est congolais. Il faut, puisque en fait la loi recommande qu'il s'agit d'une liste, il faut que son parti politique ou le regroupement politique le reconnaissent comme leur candidat. À défaut, l'indépendant se présente comme indépendant. si la personne occupait des fonctions incompatibles avec le poste qu'il veut occuper, il faut que au préalable, il présente des documents qui montrent que il n'est plus occupé par des fonctions antérieures et que maintenant, il peut bien se présenter comme candidat. Il faut que, bien sûr, logiquement, il présente des photos passeports récentes, mais aussi la preuve de paiement déposé pour le compte du Trésor public dans un numéro que gère la DGRAD. Donc là, ce sont les conditions requises pour que quelqu'un puisse postuler au poste de candidat gouverneur.
Gouverneur, et à combien?
Évidemment, si nous voulons en profondeur, nous pouvons aller dans les articles. En fait, disons qu'il y a une vingtaine d'articles. On ne peut pas les citer tous, mais on sait que des 158 à 173 articles de la loi électorale, on y définit toutes les conditions qu'il faut. Ceux qui sont intéressés par la chose, s'ils ont la loi électorale avec eux, qu'ils lisent des 158 à 173, ils vont trouver là-dedans tout ce qu'on dit par rapport au type de scrutin. Les gouverneurs sont élus au scrutin indirect, c'est dit dans la loi.
Dans la loi électorale.
Il y est dit de grands électeurs. En fait, ils sont élus par les députés provinciaux. C'est pour ça que nous parlons du scrutin indirect. C'est dit là-dedans. Mmh. Et du mandat, qui est de 5 ans renouvelable une seule fois. On y parle aussi de la fin de mandat. Comment est-ce que le mandat de gouverneur prend fin? C'est soit par fin du mandat, c'est soit par décès, par démission, par destitution, par empêchement quelconque. Mmh. On y parle également des conditions d'éligibilité et des conditions de dépôt de candidature. Ça se trouve là-dedans. De la façon dont s'organise la campagne électorale, des contentieux électoraux.
D'ailleurs, nous allons en parler au cours de cette émission.
D'accord. Installer ou planter le décor.
Quoi. D'accord. Déjà, sur la page Facebook de l'émission Okapi Service, nous avons des réactions. Joseph Onésime Bungana de Kananga pose la question de savoir si l'élection des gouverneurs va également se dérouler avec la machine à voter, si on va utiliser la machine à voter lors de l'élection des gouverneurs.
Je crois que nous devons de plus en plus développer cette culture-là, de recourir à la machine à voter. Ceux qui ont été dans le bureau de vote, tous, unanimement, reconnaissent que la machine a été d'un apport très considérable, notamment du point de vue du temps. Donc, nous allons recourir à la machine à voter dans les différents scrutins qui nous attendent. Qu'il s'agisse des scrutins indirects ou des scrutins directs, nous allons recourir à la machine à voter. Lorsque nous avions acquis cet instrument, les autorités nous avaient bien dit que ces machines pourront nous servir pendant 15 ans. Donc il faut que nous les rentabilisions, que nous capitalisions de plus en plus cet instrument que nous avons acquis. Donc, que les compatriotes sachent que nous recourons à la machine à voter pour tous les scrutins qui viennent, aussi bien les indirects que les directs.
D'accord. David Ngandou de Puy-Mbujimaï dit ceci, est-ce qu'un député national ou provincial déjà élu peut être candidat à l'élection de gouverneur, peut être candidat à gouverneur?
La loi dit que les candidats gouverneurs viennent de l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée. Donc, un candidat député provincial peut bien postuler pour être gouverneur. Si c'est un candidat député national, il devra choisir entre servir la République comme gouverneur ou servir la République comme député national. Donc, les candidats gouverneurs peuvent bien venir de l'Assemblée provinciale, tout comme il peut venir de l'extérieur. Il peut être quelqu'un qui n'est pas député provincial. Et s'il est élu et qu'il avait des fonctions antérieures, il sera porté à faire un choix entre ses nouvelles fonctions de gouverneur et les fonctions qu'il occupait antérieurement. S'il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Ou s'il y a une incompatibilité entre les deux, il doit devoir choisir.
D'accord. Louis Kanda nous a écrit, il dit, une personne qui n'est pas députée peut-elle postuler pour devenir gouverneur?
C'est ce que je viens de dire, voilà. Pourvu qu'il n'occupe pas des fonctions qui soient incompatibles avec la fonction à laquelle il veut aspirer. Si c'est incompatible, on peut soit le recaler au niveau du dépôt de candidature, ou alors il est élu et il doit choisir.
Et quelles sont ces fonctions incompatibles?
Bon, là, franchement, il faudra que nous puissions jeter un coup d'œil.
Dans la loi électorale.
Dans la loi électorale.
Alors, entre-temps, nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez participer à ce magazine électoral. Il suffit de composer le 081-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiookapi.net. Et nous allons nous rendre dans la province de l'Ituri où quelques habitants de cette province se sont exprimés par rapport à l'élection des gouverneurs. Suivez.
Vous savez, les enjeux sont de l'air. Il y aura les élections des gouverneurs, il y aura les élections des sénateurs. Néanmoins, la population itourienne est en train d'attendre un choix judicieux d'un gouverneur qui va booster l'économie, qui va booster le développement de l'Ituri. Alors, nos députés provinciaux, il ne faudra pas qu'ils puissent élire un gouverneur qui ne veut pas nous aider. Alors, sur ce point-là, nous sommes catégoriques. C'est-à-dire, nous voulons un développement de la province, un développement de la province, un nouveau système, un nouveau changement.
Ils ont parlé de changement, ils ont parlé de changer ce qui était erreur avec l'ancien mandat. Moi, en tant qu'opérateur économique, en tant que partenaire de l'État, mon problème, c'est collaboration sincère. Et de faire tout, de changer figure de cette ville et développement. Nous allons faire effort que chacun là où il est, que les gens puissent voir ou bien réellement, il y a eu un changement de développement en Ituri. Deuxième chose, réunir tout le monde.
Voilà, c'était là quelques réactions des habitants de l'Ituri au micro d'Isaac Remo Yopé. Ils se sont exprimés par rapport à l'élection des sénateurs et gouverneurs. Eh bien, sur Facebook, Eric César nous a écrit depuis Bukavu. Il nous dit ceci, avec ce rythme de prolongation à chaque fois, nous arriverons à la date butoir. On risque d'aller jusqu'en 2025 que la CENI ait organisé les élections prévues. Concernant l'élection des gouverneurs et des sénateurs, nos députés doivent prendre leurs responsabilités en main en évitant toute manœuvre tendant à les discréditer. C'est Eric qui nous le dit. Depuis Bukavu, Patrick Patel Bomolo nous dit les candidats gouverneurs peut avoir quel âge, voilà. Et Jonas Kapuku Wabende, depuis la province du Kasaï central, dit ceci précisément. Pourquoi en République démocratique du Congo, pour faire un problème, il y a toujours plusieurs raisons pour un problème? Ah, là, on n'a pas compris. Jonas, ce que vous voulez dire concrètement. Alors, Monsieur Joseph Senda, je reviens à vous. Bon, la question d'abord était de savoir quelles sont les fonctions incompatibles avec la fonction du gouverneur.
Bon, en gros, on peut par exemple dire que quelqu'un qui sert le pays sous les drapeaux, qui est officier de l'armée, ne peut pas, en plus de ce poste-là, prétendre au poste de gouverneur. Quelqu'un qui sert le pays comme membre du conseil économique devra au départ se départir de ces fonctions-là pour prétendre être gouverneur. Quelqu'un qui est membre d'une administration, membre d'administration d'une entreprise d'État, devra, dans un premier temps, quitter ses fonctions pour postuler au poste de gouverneur. En fait, il y a près de plus ou moins 10 cas qui sont énumérés par la loi, qui sont jugés incompatibles avec le poste de gouverneur. Il faut, au départ, partir de cette catégorie-là pour prétendre gouverneur. Donc, on ne peut pas à la fois être gouverneur et occuper des fonctions, par exemple, au sein de l'armée. On ne peut pas à la fois être gouverneur et être membre du conseil économique. On ne peut pas à la fois être gouverneur et être et membre du conseil d'administration d'une entreprise. Il faut devoir choisir entre les deux et ne pas associer les deux. Donc, ce sont des fonctions qui sont incompatibles.
Oui. Alors, il y a une question qui est revenue, l'âge du candidat gouverneur.
Nous avons dit que c'est 18 ans au minimum, à la date de clôture des pots de candidature, alors que c'est 30 ans pour ce qui est du sénateur.
Alors, un auditeur, un internaute de Bukavu, c'est Eric, il dit, comme on a commencé la série des reports, on risque d'aller des reports en report jusqu'en 2020.
Report de quoi?
Des élections, des sénateurs et gouverneurs.
Nous allons avoir...
On risque d'entrer dans un cycle de report jusqu'en 2020.
Nous allons avoir l'élection des gouverneurs au mois de mars, des sénateurs au mois de mars. C'est très important parce que si nous n'élisons pas les sénateurs, il y a une chambre qui ne va pas fonctionner, nous aurons un parlement hybride. Et c'est pas normal non plus. Donc, il faut que forcément, nous ayons des sénateurs pour qu'ils constituent la chambre haute et que nous ayons un parlement homogène, constitué des élus d'une même législature. Donc, inévitablement, nous devons arriver à ça. Il en est de même des gouverneurs de province. ils sont hors mandat, il faut que ces institutions soient renouvelées, que les animateurs de ces institutions-là soient renouvelés. Donc nous aurons forcément l'élection des gouverneurs le mois prochain, le mois de mars, parce que nous sommes déjà au mois de février.
D'accord. Marcel Botto, vous êtes à Kananga, Germain nous appelle de Butembo. Marcel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Bienvenue dans ce magazine électoral. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oh. Oui, je voulais poser à l'invité une question, parce que nous avons vécu des scénarios à Kananga. C'est-à-dire qu'entre la CENI et l'Assemblée provinciale, il y a un peu de problèmes. Lorsqu'il y a les élections de gouverneur dans la salle, vous allez voir un député provincial, comme il a déjà reçu l'argent du candidat gouverneur, il fait semblant, oh, je ne vois pas bien. Pourquoi? Parce que les témoins du gouverneur en question, candidat gouverneur, puissent voir réellement que le député a voté pour lui. Est-ce que la CENI a prévu ça dans ses règlements? Parce que nous avons vécu les élections, il y a que les candidats, c'est eux qui votent. Et ou un témoin des partis politiques. Mais nous voyons là des scénarios à Kananga, je vous dis, c'est du jeu. Vous allez rigoler. Vous voyez un monsieur, un député normal qui voit bien, il vous dit, je ne vois pas, il faut qu'on vote dans ma place. Est-ce que c'est prévu par la CENI?
Parce qu'il a reçu l'argent d'un candidat.
Oui, il a déjà reçu l'argent du candidat parce que tout est déjà des consignes déjà à Kinshasa. C'est comme on appelle les mots d'ordre, c'est ça les termes qu'on appelle les mots d'ordre de Kinshasa.
D'accord.
Entre la loi électorale et les règlements de la CENI, quel est le député pour quoi? Qui peut te répondre un peu?
Merci. Germain de Butembo, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de l'élection des sénateurs, et particulièrement des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est de savoir est-ce que sont les contentieux électoraux qui sont à la base du décalage de la date de l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Car peut-être après l'analyse des candidats et des recours pour ceux qui sont élus provisoirement, proclamés provisoirement, il y aura quelques-uns qui vont échouer après analyse des recours et les autres qui seront peut-être candidats, députés, disons candidats gouverneurs et sénateurs, dans chaque province. Mais aussi, c'est pas tout ce fait qui est à la base du décalage de la date. Mais aussi, je voulais poser la question à notre invité. Si, pour une province de 34 députés, les candidats sénateurs doivent réaliser combien de voix pour être élus sénateurs dans une province de 34 députés?
Bien, merci Germain de Butembo. Désiré, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, merci. Je salue aussi l'invité.
Merci.
On vous écoute.
J'ai deux questions que j'aimerais poser à notre invité. La première, je dis ceci, considérant les critères qu'il avait énumérés auparavant, notamment l'âge minimum de 18 ans pour les candidats gouverneurs, et puis il a souligné le niveau d'études au minimum d'être gradué. Alors je disais, est-ce qu'un jeune qui n'avait jamais trouvé l'emploi est-il postulé pour être devenu gouverneur? C'est la première question. La deuxième question est celle des critères. Donc, hormis l'appartenance politique, bon, dépendamment de notre pays, hormis l'appartenance politique, est-ce qu'il peut énumérer les critères sur lesquels les députés provinciaux se basent pour voter un candidat gouverneur? Et cela peut-il donner la chance à un candidat indépendant de devenir gouverneur? Ce sont là les deux questions.
Merci. Monsieur Joseph Sender.
Bon, merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par la première question. C'est la loi qui définit et qui donne la possibilité qu'un électeur se fasse assister par quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas de la CENI, ça vient du législateur. Ça s'est fait bien, aussi bien dans un scrutin direct que dans un scrutin indirect. La loi reconnaît à chaque électeur le droit de recourir à quelqu'un pour qu'il assiste au cas où il aurait des problèmes de vue. Donc, ce n'est pas un problème de...
Qu'est-ce que vous appelez par scrutin indirect?
Ok, voilà. Mm. En fait, nous avons 11 scrutins, sans compter la computation des chefs coutumiers. Ok. De ces 11 scrutins, nous avons 5 scrutins directs. Ce sont les scrutins pour lesquels la population est directement sollicitée. C'est le cas de l'élection du président de la République, c'est le cas de l'élection des députés nationaux, des députés provinciaux, des conseillers municipaux et des conseillers des secteurs. Ils sont directement élus par la population. Oui. Tandis que les scrutins indirects, nous en avons 6, c'est lorsque les grands électeurs élisent, dans les cas d'espèce, les députés provinciaux qui ont été élus par la population vont élire les gouverneurs et les sénateurs. Donc là, il s'agit d'un scrutin indirect, parce qu'en fait, la population n'élit pas directement. C'est la même chose avec les bourgmestres et leurs adjoints. Ils seront élus par les conseillers municipaux. Et tandis que les mêmes conseillers municipaux vont devoir élire les conseillers urbains. Les conseillers urbains vont élire au troisième degré les maires et les maires adjoints de ville. Les conseillers des secteurs et des chefferies vont élire les chefs de secteur et son adjoint, à l'exception, le chef du secteur revient son adjoint, à l'exception du chef de chefferie. À côté des séances, nous avons la cooptation. Si vous suivez l'actualité, on est en train de vouloir coopter les chefs coutumiers qui doivent compléter le nombre de sièges au niveau de l'Assemblée provinciale.
D'accord. Donc, un député provincial peut se faire assister pendant...
Un député provincial peut se faire assister par quelqu'un pendant l'élection du sénateur ou du gouverneur. C'est la loi qui l'est dit, ce n'est pas la
solution. Il n'est pas à mesure de bien manipuler la machine à voter.
Ou de voir, ou je ne sais pas quoi. Il y a une indisponibilité ou un handicap physique clairement établi. Il recourt à l'électeur. Maintenant, s'il joue à des astuces, bon, ça c'est autre chose. C'est pas la CENI. Si la personne se livre à des astuces, la personne exploite à sa manière la loi, la CENI l'accompagne. Ce n'est pas quelque chose à mettre au compte de la CENI, non.
Donc, Germain Debouté ne veut pas des contentieux. Est-ce qu'ils ne sont pas les contentieux qui sont à la base de ces reports
Mais non, pas du tout. Si vous suivez l'actualité, les assemblées provinciales sont en train de s'installer. Après les bureaux provisoires, nous passerons au bureau définitif. Et à ce moment-là, on va devoir procéder à l'élection de gouverneurs et des sénateurs. Si dans l'entretemps, les contentieux qui sont dans les cours d'appel donnent raison à l'un ou l'autre, ou invalident quelqu'un, eh bien on va appliquer la loi. Cette personne qui sera invalidée va céder la place au profit de celui qui sera validé. Donc ça ne va rien du tout changer. On ne va pas attendre à l'installation de l'Assemblée provinciale la fin des contentieux au niveau de cours d'appel. Non, ce n'est pas ça qui justifie le report des élections. Pas du tout.
D'accord. Il dit pour une province qui a 34 députés, le candidat sénateur doit obtenir combien de voix pour être élu?
En fait, nous avons, comme nous l'avions dit tout à l'heure, il y a 4 sièges qui sont pourvus. Les 4 compétissent, si vous voulez dire, et celui qui obtient la majorité de voix, il est élu. Le sénateur, candidat sénateur, qui obtient la majorité de voix, il est élu.
Un jeune qui n'a jamais travaillé, à peine sorti il a fini les études, est-ce qu'il peut être candidat?
Il doit faire preuve d'expérience dans certains domaines, notamment dans le domaine politique, dans le domaine de l'administration publique. Il faut qu'il fasse preuve d'expérience pour postuler au poste de gouverneur ou de sénateur.
À combien s'élève la caution qu'il faut payer pour être candidat à gouverneur?
Bon, 1 million, je crois, pour les 10 millions pour les gouverneurs.
10 millions de francs congolais.
10 millions de francs congolais, c'est quelque chose comme 6 000 dollars. Et 1 million 600 000, je crois, pour les sénateurs. C'est ça, la caution qu'il faut payer. Et comme on le sait, c'est pas remboursable.
C'est pas remboursable. Et les candidats sénateurs et gouverneurs, est-ce qu'ils auront aussi le temps de battre campagne?
Oui, ils ont le temps de battre campagne. Ils ont 3 jours pour battre campagne et ils battent campagne auprès des grands électeurs. Bien sûr, nous déplorons qu'ils aillent vers la population, qui en fait ne vote pas. En principe, ils battent campagne au sein de l'hémicycle. C'est parce que c'est là que siègent les députés provinciaux. Ils les font pendant 3 jours. Bien sûr, il n'est pas exclu qu'il y ait de conciliabules qui se font les nuits, par exemple. Mais il est censé battre campagne auprès de ses électeurs, qui sont des grands électeurs, qui sont des députés provinciaux. Il n'a rien à voir avec la population. Je sais très bien qu'il y en a qui vont vers la population dans l'espoir que la population va influer sur les députés provinciaux pour que les voix leur soient accordées. Mais en principe, ils sont censés présenter leur programme d'action auprès des députés provinciaux, qui sont les grands électeurs. Ce sont eux qui les élisent.
Mais la population n'est pas censée connaître leur programme?
Bien sûr, la population est censée, pas c'est elle qui sera. Puisque la population est derrière les députés provinciaux, la population est censée faire confiance aux députés provinciaux qui, à leur tour, sont censés protéger les intérêts de la population et qu'ils devront doter la province de quelqu'un qui va répondre aux attentes de la population. Donc la population, elle, en fait, est derrière les députés provinciaux qu'elle a portés au sein de l'Assemblée provinciale.
Nous allons retourner à Nitouri où notre confrère Isaac Remoyope a parlé avec le coordonnateur de la société civile, Jean Bosco Lalo. Il y a eu une rencontre de la société civile et ils ont déterminé le profil du candidat gouverneur qu'ils veulent obtenir pour leur province. Suivez.
Nitouri a une particularité, pendant que beaucoup d'autres provinces du pays ont réussi à avoir des gouverneurs qui ont permis un décollage, même faible, ailleurs, chez nous, au lieu de décoller, on a plutôt reculé. Au lieu d'avancer, même des pas, on a reculé de plusieurs pas. Cela nous fait croire à ce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, la situation pourrait perdurer. Et pour que ça ne perdure pas, nous avons anticipé les choses, nous avons pris notre courage, nous avons proposé un profil pour un gouverneur de l'Ituri. Un gouverneur qui connaît l'Ituri, un gouverneur visionnaire, un gouverneur pour qui la bonne gouvernance n'est pas une leçon à lui donner, qui peut aussi attirer un peu les investisseurs, et puis aussi savoir collaborer avec la population, et en même temps être conscient du contexte particulier que nous avons en Ituri, c'est qu'aujourd'hui, Djougou et Irumu sont déchirés par des conflits qui ne disent pas leur nom. Et ce gouvernement-là doit être à mesure de s'y investir et aussi d'investir un peu des moyens de la province pour que cette situation-là ne puisse plus perdurer et sa peine de fin. Et aussi, nous voudrions que le gouvernement qu'on aura soit à mesure de faire face à certaines vérités. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont pris goût à des mauvaises pratiques. Pratiquement, on est tenté de dire que la fraude est devenue une partie intégrante de la province. Donc aujourd'hui, nous voudrons un gouverneur qui peut relever ces défis-là.
Alors, vous avez parlé d'un gouverneur visionnaire. Qu'est-ce que vous entendez par visionnaire?
Le visionnaire est celui qui sait ce qu'il veut faire. Il sait comment il doit le faire. Et quand il le fait, il veut arriver à un résultat. Et je ne sais pas, parce que ce n'est pas si complexe que ça. Lorsque tu étais gouverneur, lorsque tu ne sais pas faire un bilan de ton règne, je pense que tu n'as pas eu de vision. Lorsque tu as de l'argent, que tu dois envoyer à Kinshasa, que tu dois, avec lequel tu dois te construire des maisons, avec lequel tu dois t'acheter des véhicules, et tu oublies que la population a des besoins. Donc aujourd'hui, un visionnaire, en principe, doit placer le besoin de la population, le besoin de la province, au-delà de ses propres besoins. Donc là, vous n'êtes pas égoïste. Donc vous travaillez effectivement pour la population.
Quand vous donnez ces profils, vous ne pensez pas que vous prêchez dans les déserts, étant donné que le vote s'est fait au second degré?
Le vote s'est fait au second degré, mais les députés qui font ce vote-là ne sont pas venus du ciel. Ils sont venus du premier degré. Donc si c'est au second degré, ça suppose qu'il y a un premier degré. Et ce premier degré, c'est la population, justement. Et la population le suit. Et les députés d'aujourd'hui, heureusement que beaucoup leur ont déjà parlé de ça, même à l'ouverture hier, l'administration de l'Assemblée qui a prêté le discours leur a dit sur l'ensemble des députés professionnels que nous avons eu de 2006 jusqu'à 2018, il n'y a que deux qui ont été repêchés. Il faut dire repêchés parce que sur l'ensemble des députés, si on ne peut avoir que deux, même pas repêchés, ce sont des rescapés alors. Parce que tous sont partis. Même le président lui-même n'est plus député provincial. Donc c'est grave. Il ne peut plus même oser postuler comme un sénateur. Imaginez-vous ce que lui-même se reproche, c'est qu'il a comme remords. Et aujourd'hui aussi, par exemple, un gouverneur comme celui qu'on a connu. S'il est honnête, il ne peut plus oser revenir ici pour demander un poste quelconque aux Ituriens parce qu'il a fait la honte de l'Ituri.
Alors, quelles sont les démarches que vous menez pour que votre voix puisse être attendue et que vos attentes puissent être satisfaites?
Nous sommes en contact avec les députés professionnels. Ce sont nos élus, c'est nous qui les avons élus. Ils se reconnaissent donc au peuple qui les a mandatés. Et aujourd'hui, ils vivent à Bounia, ils ont l'opinion même de ce que le peuple veut, ils savent qui sont les personnes que la population voudrait voir être élue comme gouverneur, et il appartient à eux maintenant de concrétiser ce rêve-là des populations pour que ça devienne une réalité.
En même temps, nous savons que les candidats appartiennent à un parti politique, à un regroupement politique, ils doivent aussi répondre aux consignes de leur parti politique. Comment comptez-vous faire face à ces défis?
Les députés n'ont pas été élus par leur parti politique, ni par leur regroupement politique. Et ceux-là qui ont suivi leur parti politique et leur mot d'ordre, ainsi que leurs recommandations, ils sont hors de l'hémicycle aujourd'hui. Alors si eux aussi veulent faire 5 ans et finir avec ça, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire, mais nous ne les laisserons pas tranquilles, ils seront dérangés et nous osons croire qu'ils ne vont pas suivre les mauvais conseils qui viendront de leur parti. Ils vont plutôt tamiser ce qu'on leur dira et refuser ce qui ne correspond pas aux besoins de la population de l'Ituri.
Mais il y a aussi l'argent qui circule parfois. Vous pensez qu'ils peuvent vraiment sauter l'argent pour faire les choix de la population?
Ils auront à choisir. Prendre l'argent, le consommer et ne pas obéir, ou refuser l'argent et ne pas obéir. Et ils sont libres. Nous ne voudrions pas trop charger leur conscience. Nous ne voudrions pas non plus les accuser d'avance qu'ils seront corrompus, mais à la phase actuelle, nous sommes convaincus qu'ils ne seront pas corrompus, mais ceux qui vont oser se laisser corrompre et changer d'idée, parce que c'est deux choses différentes. On peut te donner l'argent, souvent ce n'est pas la corruption. Ça peut avoir autre nom, comme des pots de verre, comme des moyens qu'on te remet, évidemment, sans une contrepartie suffisante, et certainement ça vous conditionne, mais les personnes qui sont dignes, les personnes honnêtes, savent résister à des sollicitations qui ne marchent pas selon leur conviction. Donc aujourd'hui, l'argent qu'on va leur donner, c'est l'argent que les gens ont pris quelque part. Et nous leur conseillons qu'ils prennent tout ce qu'on donne comme argent, mais en même temps qu'ils puissent voter selon leur conscience.
Bien, c'était là le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Jean Bosco Lalo, au micro d'Isaac Remoyope. Alors avant de donner la parole à Monsieur Joseph Sendai, on va accueillir trois auditeurs. Jérémy Mwamba de Lumbashi, Donatien nous appelle de Kinshasa, Albert Mwananga de Kananga. Jérémy, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour également à l'invité avec vous sur le plateau.
Merci beaucoup.
Je voudrais juste sembler,
Oui, allez-y rapidement, quelle est votre question?
Oui, je voudrais juste fustiger, parce que c'est comme on l'a fait passer, donc la procédure avec laquelle notre pays procède quant à l'élection du gouverneur, etc. Parce que ça fait bien des années qu'on assiste à un duo entre le président du Parlement provincial et le gouverneur, où ils se donnent des passes. Cherchant à marquer à leur faveur les billes, mais ce sont la population qui en pratique, parce que la population ne retrouve presque, ne gagne presque rien. Moi, je pense que l'Assemblée provinciale, pour qu'il puisse avoir la crédibilité, de contrôle effectif du gouvernement provincial, il doit réellement se passer, on doit changer le mode d'élection. Parce qu'on assiste à une clique ou à un club des amis qui se mettent ensemble et le contrôle n'est pas là, donc le gouvernement provincial travaille comme il veut, et on assiste vraiment à des détournements sans qu'il y ait de motion de défiance, soit d'un des ministres.
Voilà. Jérémy propose qu'on puisse changer le mode d'élection, que ça soit plus indirect, mais que ça soit...
Également, je voudrais aussi que le ministre de la Justice, ainsi que celui de l'Enseignement, puisse travailler concomitamment pour mettre de côté un peu ce système de faussaires qui entrent dans les courants. Il y a même des gouverneurs qui n'ont pas étudié correctement, mais qui jusque-là se retrouvent au sommet, c'est-à-dire en train de diriger la province, mais sans passer par les études correctes.
D'accord, merci.
On ne peut pas faire un...
Merci Jérémy. On va accueillir Donatien de Kinshasa rapidement. Donatien, bonjour. Donatien, vous êtes en ligne?
Il n'est oui, plus. Je suis en ligne. Bonjour, monsieur Jody, à l'invité, à tous les auditeurs intervenants de la radio Kassi.
Bonjour, Donatien. Quelle est votre question, rapidement?
Bon, je voudrais seulement poser quelques petites questions. Je voudrais demander, un député national ou bien un député provincial qui postule aussi comme candidat gouverneur, et il arrive que ce député national ou bien provincial ait voté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler comme député national et provincial et aussi comme gouverneur, ou bien on va faire comment ça va se passer par là? Et puis je vois souvent il y a peut-être des candidats qui postulent en même temps comme gouverneur et puis comme candidat gouverneur et puis il postule comme sénateur aussi. Alors s'il est voté comme sénateur et comme gouverneur, qu'est-ce qu'il va faire? La loi n'a pas prévu au moins quelque chose.
Merci beaucoup, bonjour. Merci Albert Mwananga de Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jodi, bonjour à notre invité.
Merci. Quelle est votre question?
Oui, je suis très content vraiment d'intervenir dans cette émission parce que je suis heureux à ce jour. Je remercie la CENI d'avoir vraiment organisé ces élections. J'étais parmi ceux-là qui formulaient des critiques, des recommandations à l'endroit de la CENI. C'était juste pour vraiment améliorer le travail. Oui. J'ai quelques préoccupations. La première préoccupation est de savoir pourquoi le report des élections devient aujourd'hui une habitude pour la CENI. Ou bien c'est une stratégie seulement de faire entrer l'argent dans la caisse, parce que quand il constate qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, il peut reporter pour qu'on ait un peu quelque chose. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, allô?
Oui, allez-y, on vous écoute rapidement.
Oui,
on a plus
la deuxième
temps.
Préoccupation, que oui. Dit la loi électorale en ce qui concerne la corruption? On entend souvent, il y a des candidats sénateurs et gouverneurs qui promettent déjà de l'argent aux députés afin qu'ils soient élus. Est-ce la CENI n'est pas au courant, bien n'a jamais été au courant de cette corruption? et aussi la problématique des mondes d'ordre vient de Kinshasa, qui doit être obtempéré par le député pour qu'il puisse élire selon les mondes d'ordre vient de Kinshasa. Est-ce que la CENI n'est pas au courant de tout ça, ou bien la loi n'a pas prévu ce genre de dispositions de loi pour qu'on puisse éradiquer cette problématique?
Merci Albert Mwananga, Monsieur Joseph Sendam.
Okay, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Nous allons essayer de les ramasser et de donner des réponses qui nous espérons vont satisfaire tout le monde. D'abord, le premier entretien, il est très intéressant. La société civile exprime bien sûr son souhait, qui est tout à fait légitime, que le gouverneur réponde à un profil. Mais je crois que les questions lui posées sont intéressantes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'à la fin de fin, les électeurs, ce sont les députés provinciaux.
Ce sont les députés, voilà.
Il faut qu'eux fassent un lobbying auprès des députés provinciaux pour qu'à leur tour, écoutent effectivement les désidératas de la population et dotent la province d'un gouverneur qui répondra à ce profil-là. Sinon, en fait, il faut le dire, c'est un marché des dupes.
Ils ont dit même dans les sons que de plus en plus des députés provinciaux se font corrompre par certains candidats. On leur promet 50 000 $, 25 000 $ pour voter tel ou tel autre candidat.
Il faut que la société civile soit forte pour qu'elle se saisisse de tels dossiers et qu'à la limite, elle voit comment est-ce que la justice peut intervenir. Il faut que la société civile intervienne effectivement. Si jamais il est établi que tel député provincial s'est fait corrompre, pour que sa voix soit portée en faveur de tel candidat gouverneur. C'est le travail de la société civile qui doit être effectivement à l'œil au sein du village pour que certaines déviances négatives ne puissent pas gagner la société. Mais, à la fin, c'est le député provincial qui vote. Et comme je le disais, nous sommes dans un marché des dupes. Ça veut dire quoi? Il aura beau travailler ou mal travailler, il a son salaire, après la mandature, il est parti. On ne lui demande pas de restituer l'argent parce qu'il aura mal travaillé. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour cela qu'il faut en appeler beaucoup plus à la maturation de la population pour qu'elle sache comment réagir au moment où elle estime qu'il y a des déviances qui se présentent. Donc c'est la population qui doit savoir se prendre en charge. Donc ça c'est par rapport à l'Ituri. Donc nous disons qu'ils doivent eux influer auprès des députés provinciaux pour que ceux-ci dotent la province des gouverneurs qui soient même de répondre aux besoins de la population. Quelqu'un a fait allusion à la possibilité de scrutin direct au procès des gouverneurs. C'est pas impossible. En fait, si nous prenons la petite expérience que nous avons vécue, nous voyons très bien comment est-ce que, de manière générale, les députés provinciaux malmènent les gouverneurs et les empêchent parfois de bien travailler. Et parce que il suffit qu'ils aient besoin d'argent, et ils montent une motion et le monsieur tremble parce qu'en fait il a été élu par ces gens-là et il est obligé de se plier et à la fin, il n'est pas en mesure de mener correctement son action. Maintenant, faut-il que le législateur pense à ce que les deux passe par un scrutin direct, ce n'est pas impossible.
Et oui, quelqu'un a proposé de Lubumbashi qu'on doit changer le mode des scrutins.
Il faudra que les législateurs réfléchissent par rapport à ça, que les députés provinciaux et les gouverneurs tous aillent solliciter les voix de la population et que des mécanismes légaux soient établis pour que l'exécutif continue à travailler comme exécutif, les législatives provinciales travaillent, fassent son travail de contrôle. Si jamais il y a conflit, le mieux serait qu'on se rabatte par exemple à l'Assemblée nationale, qui va trancher au lieu de courir chaque fois à des destitutions, à des motions de méfiance qui bloquent la province et qui empêchent à certains gouverneurs de travailler correctement. Donc cette idée, elle n'est pas mauvaise, mais il faut que le législateur la saisisse à un moment donné et la coule en loi pour que nous puissions vivre le cas où le gouverneur sera élu aussi au scrutin direct.
D'accord, on va accueillir des autres auditeurs. Shadrack de Mbujima et Emery de Kananga. Rapidement, bonjour Shadrack.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour à Monsieur Joseph Senda, notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question?
Oui, la première préoccupation était celle de savoir si, d'après les calculs de notre invité, chaque province va au moins sortir 4 députés.
Lorsque nous prenons les 4 sénateurs.
4 sénateurs.
4 sénateurs, voilà.
Lorsque plus 8 sénateurs à Kinshasa.
25 nous donne un peu 100, plus les 8 de Kinshasa, 100 et 8. Maintenant, notre président sera aussi le 109e. Alors, ma préoccupation était celle de savoir, est-ce que le président va commencer à siéger valablement comme tout autre sénateur ou il va siéger à titre honorifique? Voilà un peu mon inquiétude, et je vous remercie.
Bien. Emery de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Merci.
Oui, je voudrais intervenir par rapport à la corruption, même dans la salle des élections, mais je pense que notre auditeur de Kananga a déjà dit, ce qui se passe, mais je voudrais demander à la CENI afin qu'il puisse attirer un peu la discipline lorsqu'il y a les élections de gouverneur, parce que nous voyons tout ce qu'on ne peut pas voir. Alors, je voudrais demander, M. Jody, vous savez, il y a eu des ministres nationaux qui ont postulé comme candidat lui-même, candidat député national, candidat député provincial. Ils ont eu la chance, ils ont été élus, ils ont des mandats. Et aujourd'hui, il récupère le formulaire pour postuler encore comme sénateur et gouverneur lui-même là. Vous voyez que c'est du n'importe quoi. Est-ce que la loi ne prévoit toutes ces choses? Donc un candidat doit avoir 4 mandats lui-même en même temps. Il est député national, député provincial en même temps. Il est ministre, il est sénateur, il est gouverneur. Parce que je voudrais que notre invité de la CENI puisse un peu nous expliquer.
D'accord. D'accord. Faut pas citer les noms, on a compris. Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Merci beaucoup. Merci.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais un peu demander à l'invité de donner quelques précisions hein, par rapport aux incompatibilités. Parce que ce matin, j'ai suivi le jeune, l'ancien juge de la Cour constitutionnelle qui parlait de la moralité politique par rapport à l'application de la loi en ce qui concerne les incompatibilités. Il peut au moins donner un peu quelques précisions par rapport à ça. Deuxièmement, c'est par rapport aux critères de cooptation de chefs coutumiers.
Donc aujourd'hui on ne parle pas des chefs coutumiers, donc veuillez garder cette question pour une prochaine fois où on va parler de la cooptation des chefs coutumiers. On aura certainement une émission là-dessus. Alors, Monsieur Joseph Sinda, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on met sur le dos de la CENI alors qu'en fait elle ne dépend pas de la CENI. La CENI n'est pas là pour favoriser la corruption.
On dit que la CENI ferme les yeux sur ce qui se passe dans la...
Mais non,
il y a une corruption à grande échelle qui se passe lors des élections des gouverneurs.
Mais la CENI n'est pas là pour ça. La CENI est là pour accompagner un organe délibérant à se doter d'un gouverneur, ou à élire un gouverneur. La CENI y va avec la loi électorale. La CENI y va avec les mesures de avec ses procédures. La CENI y va avec les dispositions de la Constitution. Et la CENI accompagne. Maintenant, s'il y a des conciliabules qui se font la nuit, s'il y a des chèvres qui circulent la nuit, la CENI n'est pas là. S'il y a des gens qui estiment qu'ils doivent voter telle personne parce que la personne vient de sa tribu et que la personne lui a apporté je ne sais quoi, la CENI n'est pas là. Le plus important est que chacun soit à mesure de prendre son bulletin, de le déposer au profit de tel candidat. Ça, c'est pas le problème de la CENI. Si, comme je le disais tout à l'heure, certains estiment qu'il y a eu corruption, eh bien, ils n'ont qu'à saisir les juridictions qui sont compétentes en cette matière-là, avec des preuves à l'appui, et on verra bien ce que la loi dit en matière de corruption. C'est pas.
Et
c'est
si
pas
on établit qu'il y a corruption, on peut invalider ces élections.
Bon, je ne sais pas ce que la loi dit par rapport à la corruption, mais je sais qu'il y a des dispositions de la loi électorale qui interdisent notamment à l'agent électeur, à l'agent de la CENI, de poser certains actes. Donc, sinon, alors, il court une sanction telle qu'est prévue par la loi. Maintenant, s'il y a des gens qui jouent à gauche à droite et qu'il est établi qu'ils ont joué à gauche à droite, eh bien, la justice fera son travail. Si la sanction, c'est l'invalidation, eh bien, on va invalider la personne parce que la voie suivie n'est pas correcte, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on met sur le compte de la CENI alors que la CENI n'y est absolument pour rien.
Pour rien.
Alors, maintenant, d'abord, nous avons vu qu'il y avait des candidats présidents de la République, il y avait des candidats députés nationaux, la même personne est candidat
président de la République. La même personne est candidat sénateur, candidat gouverneur.
La loi ne l'interdit pas. La loi n'interdit pas que l'on soit à la fois candidat président de la République, candidat député national. Mais à un moment donné, on est obligé, au cas où on est élu partout, de faire un choix. On sera obligé de faire un choix. Si quelqu'un a postulé comme gouverneur, bien sûr, cette élection, les deux élections n'auront pas lieu au même moment. Et si, après qu'il ait été élu, il pense qu'il faut qu'il soit encore sénateur, bon, il va le faire.
Il peut laisser sa femme là-bas,
si
il prend
jamais,
son fils,
si jamais,
de l'autre côté.
Si jamais il le fait avant qu'une ordonnance l'instituant comme gouverneur n'ait été faite, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il est gouverneur élu et non pas encore disposant d'une constitution, et qu'il pense qu'il peut être sénateur, et qu'à la fin de ça, il est aussi élu, il sera porté à faire un choix. Et même s'il y a une ordonnance qu'il établit comme gouverneur, il faut qu'il rentre dans la catégorie des incompatibilités, par exemple. Sinon, alors, il est porté à faire un choix. si à un moment donné, il est élu à deux postes différents, il doit faire un choix. Je suis sénateur, j'abdique aux autres fonctions. Je suis gouverneur, j'abdique aux fonctions de sénateur. J'ai été élu député national, j'abdique à mon élection député provincial, où j'ai été élu.
Et on va les remplacer par qui dans les autres?
Il a des suppléants. Il est accompagné des suppléants. Les sénateurs a ses suppléants, les candidats députés nationaux a ses suppléants, les candidats députés provinciaux a ses suppléants, les bourgmestres a ses, enfin, son adjoint, les sénateurs, tout, il y a toujours, la loi a prévu.
Il y a toujours des suppléants.
Qu'il y ait une suppléance au cas où il y aurait, empêchement quelconque où la personne sera portée à opter pour un poste au détriment de l'autre.
Oui, alors parlons des Yumbi dans le Maïndombe, Beni, à Butembo, il n'y a pas eu élection. Ils n'ont pas pu voter pour l'élection présidentielle et législative. Alors maintenant, pour l'élection des sénateurs et gouverneurs, comment ça va se passer dans...
Bon, vous avez suivi, l'autorité de la CENI a précisé que sur les 26 provinces, il y a deux qui ne sont pas concernées par l'élection de gouverneurs et de sénateurs. C'est justement le Maïndombe et la province du Nord-Kivu. Parce qu'il manque effectivement de représentants des entités. Yumbi n'est pas représenté à l'Assemblée provinciale. Ça veut donc dire que si nous élisons un gouverneur, ça sera un gouverneur qui ne va pas bénéficier de l'élection de Yumbi. Quand bien même le représentant de Yumbi n'aura pas voté pour lui, mais il aura quand même voté pour quelqu'un. Donc, du fait que Yumbi n'est pas représenté à l'Assemblée provinciale, il est même difficile d'installer cette Assemblée nationale et provinciale parce que un siège sera vide. Et comme on ne sait pas élire le gouverneur, de la même manière, on ne sait pas élire le sénateur. Et ça bloque toute la machine parce que, comme je le disais, si le Sénat n'est pas là, une chambre manque, le Parlement manque. Le Parlement, c'est une institution. Le président de la République est une institution, le Parlement est une institution, le gouvernement est une institution, le cours des tribunaux sont une institution, les institutions nationales sont là. Dès qu'une chambre pose problème, une institution en souffre, en l'occurrence le Parlement. Il en est de même, au Nord Kivu aussi, Béniville, Béni Territoire, Boutemboville sont absents, donc il y a une assemblée provinciale incomplète qui ne peut pas siéger comme ça, qui ne peut pas non plus élire un gouverneur, qui ne sait pas non plus élire des sénateurs pour le compte de la province au niveau national. Donc il faut forcément que nous arrivions à avoir des élections dans ces entités-là. Donc, et nous sommes en train de nous y préparer. Au moment opportun, l'autorité va porter à la connaissance de l'opinion publique l'évolution de quoi. Mais je sais que déjà, il n'y a pas longtemps, le président de la CENI avait fait allusion au scrutin dans ces deux parties du pays.
Donc ils vont voter aussi pour les sénateurs.
Oui,
pour
ils vont voter pour les députés nationaux et provinciaux pour que leurs assemblées provinciales soient à mesure d'élire des gouverneurs et des sénateurs.
Oui.
Et que l'entité Yumbi, territoire de Yumbi, soit représentée au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale.
Voilà. Et puis, on va terminer avec une question d'un auditeur sur la page Facebook qui demande est-ce que le gouverneur élu va prêter serment, comme c'est le cas avec le président de la République?
Non, il ne prête pas serment, mais il attend une ordonnance présidentielle.
Il attend une ordonnance?
Il attend une ordonnance présidentielle, mais il ne prête pas serment.
Il ne prête pas serment?
Non.
Voilà. Donc, pouvez-vous rappeler la date de clôture des dépôts des candidatures pour l'élection?
Le rapporteur l'a dit, c'est le lundi 4 février que nous clôturons la réception de candidatures de gouverneurs et de sénateurs. Le 4 février.
Le 4 février.
Oui.
Donc, il ne faut pas attendre les derniers moments comme c'est
malheureusement,
d'habitude chez nous.
Malheureusement. Alors, je voulais répondre à quelqu'un ici qui disait que c'est parce que la CENI a besoin d'argent. Jusqu'au 30 janvier, OK. En tout et pour tout, il y avait 50 personnes qui avaient déposé, qui avaient un dossier plus ou moins complet. 50 candidats sénateurs, alors qu'il faut 108. Bon, comprenez bien que la CENI ne pouvait pas organiser le groupe 50, parce qu'en fait, ça va donner quoi? C'est pas une affaire d'argent. Et d'ailleurs, l'argent qui est versé, la CENI n'en tire aucun licouta. C'est pour les comptes publics
du Trésor public. Merci, Monsieur Joseph Sendal. Je vous rappelle que vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce magazine électoral. Merci de nous avoir suivis. Polydor Bansunga, la mise en onde. Marcel Ngomombalakeba a assuré la coordination et la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama. À la prochaine.